Toujours à l'écoute de Radio Résistante, nous sommes en direct depuis le plateau du Larzac, un temps un peu pluvieux, mais on est là, on résiste. Et on vous donne rendez-vous pour un plateau autour des écoféminismes, une question qui est traitée sur plusieurs temps pendant ces quelques jours de rencontres. Je rappelle les rencontres des luttes locales et globales qui rassemblent 600 luttes locales, beaucoup de collectifs, d'associations qui sont venus depuis plusieurs lieux en France pour se rassembler ici et pour faire de la formation, pour se rencontrer ensemble. Et pour ce plateau, je suis avec Figuier qui l'anime avec moi. Salut Figuier.
Salut.
Et je vous présente aussi nos invités. Donc Héloïse Prévost ou Prévost.
Héloïse Prévost.
Prévost, bonjour. Voilà. Donc réalisatrice du film Femme rurale en mouvement qui sera projeté demain ici sur Les Résistantes à 16h au Kaléidoscope. On aura l'occasion d'en parler. Bonjour Héloïse, merci d'être là.
Bonjour, merci.
Ensuite, on a Cindy Dacol, enseignante de yoga et bénévole au planning familial de Millau. Salut Cindy.
Bonjour. Et alors, après, nous avons Juliette Rousseau, qui est écrivaine et activiste et autrice du livre « Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques ». Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et enfin, nous avons une membre du collectif Voix des Terres, qui est un collectif écoféministe. Bonjour Béné. Qui est loin du micro parce qu'on est beaucoup dans cette petite caravane.
Salut.
Et enfin, nous avons Canel qui fait partie des gens qui organisent le festival Les Digitales, un festival qui a lieu à Paris à la fin de l'année et qui est un festival écoféministe inclusif. Bonjour Canel.
Bonjour.
Et donc l'idée de ce plateau qui va durer une petite heure, c'est de parler donc des écoféminismes, qu'est-ce que c'est, essayer de les définir ensemble et aussi voir comment ces théories féministes s'articulent dans les pratiques et dans les luttes de chacune. Donc pour commencer, peut-être on peut juste faire une définition rapide et puis on va essayer de la nourrir ensemble. L'écoféminisme, on peut dire que c'est une déclinaison du féminisme intersectionnel, donc qui enquête sur les imbrications entre les discriminations liées au genre, à la race et aux classes, unies à la destruction du vivant. Donc c'est un courant de pensée qui considère que la violence qui s'exerce sur les femmes et les minorités de genre est similaire, ou en tout cas a le même modèle et la même origine patriarcale et capitaliste que celle qui s'exerce sur le vivant. Il y a beaucoup de mots et beaucoup de définitions aussi sur l'écoféminisme, mais peut-être à partir de vous, nos invités, quelle est votre propre définition ou votre vécu sur ces pratiques écoféministes ?
Peut-être Béné, est-ce que tu tentes de commencer vu que vous êtes un collectif écoféministe ?
Alors nous, c'est vrai qu'on se définit à l'intersection de plein de luttes. Donc on est souvent en soutien dans nos actions à des luttes antiracistes et des luttes LGBTQIA+, et queer. Donc c'est vrai que c'est cette dimension, on va dire, on le dit souvent, c'est un mot très galvaudé, mais intersectionnelle qui est très présente dans les actions de soutien qu'on fait surtout dans notre collectif. Et il y a évidemment une dimension de soins et de soins des liens aussi à l'intérieur et entre les membres du collectif. Donc ça recoupe tout ça.
Et Cindy, tu voulais répondre aussi ?
Moi, je sais que dans l'écoféminisme, ce qui me parle beaucoup, c'est l'aspect très politisé, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres branches du féminisme. C'est son aspect aussi anticapitaliste, parce que c'est vraiment très présent. Et pareil, c'est pas non plus le cas dans d'autres branches du féminisme. C'est ce que vous disiez par rapport à l'intersectionnalité, que ce soit vraiment à l'imbrication de plein de luttes différentes. Et je trouve que ça a vraiment une dimension révolutionnaire dans son essence, en fait. Enfin, si on peut parler d'essence, j'ai dit un gros mot sur un plateau féministe, au secours. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a vocation à renverser complètement les paradigmes et qui a aussi vocation à renverser les paradigmes des luttes féministes institutionnelles, en fait.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Moi, je peux juste témoigner du féminisme que portent les femmes paysannes brésiliennes avec lesquelles je travaille et qui peuvent se définir parfois écoféministes ou parfois féministe rurale décoloniale ou en tout cas qui essaie de construire ce qu'elles appellent un féminisme du bien-être qui va intégrer la question de la résistance au colonialisme, au racisme et qui va vraiment s'attacher à faire du politique au quotidien et dans les institutions et dans les espaces politiques et matériellement dans leur travail de soins à l'environnement et aux personnes.
Et peut-être, Juliette, dans ton travail, comment est-ce que t'en es venue justement à lier écologie et féminisme ? Et quand est-ce que dans ton engagement, c'est venu se lier naturellement ? Est-ce que t'as ce genre de réflexion ?
Alors, moi, pendant longtemps, je me sentais ni particulièrement écolo, ni particulièrement féministe. Pourtant, j'étais militante, mais je me sentais pas particulièrement... Enfin, les étiquettes, j'avais l'impression plutôt de passer sur des luttes, de m'investir dans des luttes, mais j'avais du mal avec les étiquettes. Et je crois que la rencontre avec l'écoféminisme, pour moi, ça s'est fait à travers les textes, notamment les textes publiés par Isabelle Cambourakis dans la collection Sorcières, qui a été, je pense, une des premières, avec Émilie Hache aussi, à introduire ces textes, à réintroduire ces textes en France. Ça a été un peu une petite révélation, parce que tout d'un coup, je me suis mise à m'y intéresser vraiment. Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé un endroit dans lequel c'était possible de me sentir peut-être plus profondément rattachée, de sentir qu'il manquait peut-être pas ou moins quelque chose. Aujourd'hui, je dirais que, en fait, je me considère pas écoféministe. Par contre, je pense que, enfin, ce qui me meut aujourd'hui dans mon travail, c'est de comprendre, en tant que personne qui a été élevée comme une femme dans une ruralité industrielle, qu'est-ce que ce monde fait de nous et comment il peut être habitable autrement, et de le comprendre à partir de cette situation justement de femme dans un territoire qui a été complètement fabriqué pour la production. Et du coup, peut-être, évidemment, à ce titre-là, on peut considérer que c'est de l'écoféminisme, mais je pense que là aussi où je me méfie du terme, c'est que quand bien même, évidemment, on est là pour l'explorer, et je trouve ça très intéressant d'explorer, mais je pense que, vous voyez, par exemple, moi, ce qui me pose question en ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes paysannes et pour les femmes en général de la ruralité de laquelle je suis issue au moment du remembrement ? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de bouleversement profond d'un territoire et qu'est-ce qui s'est joué dans la trajectoire de vie de ces personnes-là ? C'est des questions qui, à mon avis, sont collectives et je crois que, enfin, l'écoféminisme peut être une façon d'amener à réfléchir ces questions-là, mais je crois que ça répond, enfin, ça qualifie un destin bien plus large que celui de personnes qui pourraient se reconnaître dans ce terme écoféministe. Et donc, pour moi, peut-être aujourd'hui être écoféministe, pour le résumer, ça veut dire quoi être une meuf issue de la ruralité ? Ça veut dire quoi habiter le monde autrement à partir de ce que j'en tire comme compréhension, comme enseignement, comme sensibilité, etc.
Et il y avait Canel qui voulait réagir.
Oui, bah je rejoins ce qui a été dit. Donc comme tu as mentionné, on fait partie avec Luc et aussi là dans la caravane d'un collectif qui se questionne beaucoup sur l'écologie queer en particulier, donc avec Béné aussi. Et en fait, à titre personnel, la façon dont je suis arrivée dans l'écoféminisme, c'était justement de voir qu'il y avait des liens qui se faisaient pas en fait entre les milieux queer et les réflexions qu'il y avait dans les milieux queer et justement les milieux écologistes. Et notamment, donc nous, on a monté un petit groupe qui campe ensemble et qui fait groupe ensemble de façon queer dans ce festival, et on a beaucoup de discussions à propos justement du manque de lien entre ces deux aspects de lutte là, et beaucoup de questionnements aussi sur des festivals où la cis-hétéronormativité est encore très très ancrée dans les luttes écologistes.
Donc aujourd'hui, l'écoféminisme est accentué, en tout cas il est de plus en plus présent dans les milieux féministes, parce qu'on fait un lien fort avec le changement climatique et comment en fait les effets du changement climatique pèsent plus sur les femmes et les minorités de genre que sur les hommes. Et Héloïse, tu as animé un atelier table ronde sur ce thème. Donc, en quoi les femmes et les minorités de genre sont plus touchées par la crise écologique, aussi à partir de ton expérience au Brésil ?
Oui, y a différentes dimensions qui peuvent s'imbriquer. L'exemple des femmes paysannes dans le nord-est du Brésil, il me semble intéressant parce que il s'agit d'être non seulement impacté sur le territoire avec une appropriation des terres pour des projets, des grands projets, que ce soit la spéculation immobilière, touristique ou des projets énergétiques comme les éoliennes, avec des effets d'accaparement des sources, de l'eau, et une dimension qui est très rarement visibilisée, c'est en termes de violence de genre, combien des projets qui viennent sur ces territoires vont impliquer soit d'exproprier les populations paysannes, ou soit les grandes cohortes de main-d'œuvre masculine qui viennent pour le montage des projets vont provoquer une explosion des violences de genre, des agressions sexuelles, des grossesses adolescentes, tout un mécanisme qui a été requalifié de repatriarcalisation des territoires, où la violence a un rôle dans l'appropriation des territoires et dans la terreur qui est imposée aussi aux communautés, et en particulier qui passe par le corps des femmes. Donc les résistances qui vont se déployer sont de fait féministes, parce qu'elles viennent aussi s'inscrire dans cette violence faite au territoire et en même temps au groupe des femmes sur place.
Canel, tu souhaitais réagir?
Oui, juste parce que ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que tu parlais des minorités de genre et je pense que c'est assez effacé. J'ai fait beaucoup de recherches en tant que chercheur sur les impacts du changement climatique d'une perspective écoféministe, et justement les impacts sur les minorités de genre, je trouvais, étaient vraiment effacés, et notamment l'aspect... Enfin, il y a plusieurs choses qui s'entrecoupent, mais de base, la précarisation de différentes populations, notamment le manque d'accès au logement aux personnes trans ou en personnes en situation de précarité, mais beaucoup de minorités de genre en situation de base propice à être affectées par le changement climatique. J'ai des chiffres qui remontent, mais bon, du coup, à 2013, mais que 40% des jeunes à la rue aux États-Unis s'identifiaient comme LGBT. Donc ça remonte à il y a 10 ans, mais ça donne un peu une idée de la précarité existante. Et ensuite, le deuxième souci qui arrive, c'est que les gouvernements ont une réponse aux catastrophes climatiques hyper binaires, où on va mettre en place, par exemple, des abris femmes-hommes qui ne font pas de distinction d'identité de genre, et des personnes qui vont se retrouver du coup hyper reprécarisées de par la réponse binaire du gouvernement qui ne prend pas en compte les différentes identités de genre des personnes. Donc c'est aussi quelque chose sur lesquels on se questionne dans notre collectif et que je voulais mentionner.
Peut-être avant de continuer, on va faire une première pause musicale avec un titre de Anne Passeo, From Shadow to Light. De retour en direct sur Radio Résistante pour un plateau radio sur les écoféminismes. On est toujours avec Héloïse Prévost, Cindy Dacol, Juliette Rousseau et des personnes du collectif Voix des Terres, donc Canel Bénet et Lu. Et je suis toujours avec Figuier pour animer. Et donc pour cette deuxième partie, on avait envie de questionner l'expérience des écoféminismes dans les luttes et aussi la notion de reclaim, donc la réappropriation des corps et des terres en même temps par les luttes écoféministes. Est-ce que tu veux continuer, Héloïse, à parler de ton expérience avec les femmes brésiliennes, surtout que tu les as filmées, non ?
Le documentaire, il est participatif. Il a été réalisé avec le mouvement des femmes travailleuses rurales du Nord-Est. Donc, c'était un filmage collectif. Elles se sont filmées, on a réalisé ensemble. Et effectivement, l'intérêt des luttes et des résistances que portent ce mouvement des femmes paysannes du Nord-Est et qui sont intégrées dans un mouvement très large qui s'appelle la Marche des Margaridas au Brésil, qui regroupe une soixantaine de mouvements, d'ONG, de syndicats, qui est un mouvement de femmes rurales qui regroupe 100 000 personnes et qui a lieu tous les 4 ans au Brésil. Et elles défendent une agroécologie féministe qui va vraiment s'attaquer aux questions de combien le colonialisme, l'impérialisme et le patriarcat ont occupé, détruit les terres et les communs et les corps des personnes colonisées ou appropriées dans ces mécanismes d'agro-capitalisme. Et du coup, elles vont défendre un féminisme agroécologique qui implique de dénoncer à la fois les violences machistes, patriarcales qui sont dans les communautés, mais qui sont surtout politiques, et combien les lobbies politiques agro-industriels ont un rôle prépondérant dans les attaques faites au territoire et faites au corps paysan et au corps des personnes minorisées de genre. Et un slogan qui est extrêmement fréquent dans ces mobilisations, c'est le machisme et le poison dans la vie des femmes. C'est-à-dire, le poison, c'est un jeu de mots au Brésil pour dire les pesticides et donc le poison aussi qui va empoisonner le corps des femmes et des minorités de genre. Et par cela, elle dénonce non seulement ce système politique qui fait que l'agro-industrie décide de tout en politique, et c'est même pas les gouvernements qui décident, mais c'est bien l'acteur politique principal, et qui va occuper tout l'espace dans les gouvernements et aussi sur les territoires en s'accaparant les terres et en assassinant et en détruisant les communautés et les paysans et les paysannes sur place.
Pour rebondir justement à cette place du corps, moi je pensais tout de suite à la place du corps dans la lutte en tant qu'activiste, ou bien même toi, Cindy, à la place du corps dans ta pratique du yoga. Est-ce que Juliette et Cindy, vous voulez réagir à quelle place prennent vos corps dans vos actions ?
C'est compliqué, c'est vaste comme question, quelle place prennent nos corps dans l'action. Mais en fait, j'ai lu la question que tu avais prévu de me poser, du coup je peux peut-être y répondre parce que c'est plus facile, je trouve. Je crois que la question, ça portait sur la dimension écoféministe de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Peut-être c'est une façon de l'approcher.
Tu as participé à cette lutte à Notre-Dame-des-Landes, c'est ça ?
Moi, j'ai grandi à 40 km de Notre-Dame-des-Landes. En fait, je vis à 40 km de là-bas. Donc, mon rapport à cette lutte, il est multiple et il est aussi familial. Enfin, je suis pas du tout... voilà, c'est aussi ma famille qui a participé à la lutte. Et du coup, en fait... Ben alors je trouve que c'est une question à la fois enfin intéressante mais très vaste aussi, donc je pourrais pas en donner, j'ai pas la prétention en tout cas de donner une réponse complète, puisqu'il s'agit aussi d'une lutte qui a duré très longtemps, avec je pense des aspects, enfin si on la regarde par l'angle écoféministe, en fait on peut voir plein de facettes différentes à cette lutte. Mais je crois que peut-être ce qui pourrait être intéressant à dire là-dessus, c'est de dire à la fois il y a eu une dimension féministe, écoféministe, et aussi dans différentes interprétations de l'écoféminisme. Depuis, je pense, enfin, aussi je pense dans des rapports au milieu vivant différents, depuis des rapports d'exploitation assumée et de réappropriation du corps à travers des pratiques paysannes, par exemple, pour des femmes, ou en tout cas pour des personnes qui sont pas des mecs cis, jusqu'à des rapports beaucoup plus, qui beaucoup plus critiques de toute forme d'exploitation, etc. Après, je pense que
sur la question de la lutte et de l'écoféminisme. Moi, une des questions que je me pose aujourd'hui par rapport à ce que tu racontes, Héloïse, de lutte au Brésil, par exemple, qui sont beaucoup plus clairement marquées comme féministes et qui s'inscrivent dans un cadre où je pense peut-être le patriarcat est nommé peut-être plus clairement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je dirais que dans le cadre de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, mais dans le cadre d'autres luttes plutôt, on pourrait dire, de territoire ou écolo, la question de la construction du pouvoir, elle est jamais critiquée et perçue depuis un angle féministe ou écoféministe. Et donc, en fait, les expériences écoféministes qui peuvent s'y jouer vont s'y jouer toujours dans des espaces de mixité choisie, dans des espaces plutôt comme à côté. Ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment dans l'espace de l'occupation à Notre-Dame-des-Landes, ça a plutôt été un espace féministe pendant un moment, jusqu'à ce que, en fait, la lutte prenne beaucoup d'ampleur, que la rejoignent beaucoup de personnes qui ne portaient pas, en fait, cette perspective, on va dire. Et moi, c'est une des questions que je me pose très fortement à l'endroit de mouvements, on peut dire de n'importe quel mouvement, mais je le pose notamment, enfin, cette question, je me la pose notamment à l'endroit de mouvements plutôt écolo aujourd'hui. C'est est-ce qu'on arrive à penser une façon de fabriquer de l'organisation politique et du pouvoir, c'est ça que je mets derrière pouvoir, notamment, de façon féministe. Et là, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à construire des dynamiques à l'échelle nationale, puissantes, etc., qui partent des perspectives écoféministes, notamment. Voilà.
Et peut-être à ce propos, on peut rappeler la lutte des femmes au Rojava dans le nord de l'Irak, où en fait, quand elles ont réussi à se libérer de l'invasion donc de l'État islamique, elles ont établi une charte. Et la charte des femmes, c'est la seule partie de la Constitution qui ne peut pas être modifiée. Donc effectivement, ça peut être un modèle peut-être de comment on peut faire.
Dans mon livre Lutter ensemble, il y a une partie sur la ZAD avec notamment un entretien que j'ai fait avec deux camarades féministes qui donnaient un peu leur perspective, donc ils sont arrivés avant 2012, donc avant la première tentative d'expulsion par le gouvernement. Un des retours critiques que fait l'une d'elles, qui moi m'a pas mal travaillé après, c'est de dire mais en fait on n'a pas réussi à construire un mouvement des femmes au sein du mouvement, mais pas non plus au sein de l'occupation. Et en fait on est tout de suite allé sur des embrouilles entre des perspectives féministes, en fait. On n'est pas parti du principe qu'on devait construire une force politique à partir des femmes et des minorisés de genre. Et du coup, ça n'a pas permis de construire une force politique comme ça a pu être le cas, comme ça peut être le cas au Rojava, où le point de départ, c'est pas un rassemblement affinitaire autour de certaines interprétations du féminisme, c'est de partir du principe que, voilà. Et je pense que peut-être, ça fait partie des pistes à creuser sur comment on peut fabriquer les choses autrement.
Je voulais reposer ma question à Sini du coup sur sa pratique du yoga et comment tu lis ça à tes pensées, je sais pas, ton engagement écoféministe.
Et ben justement, tu disais un petit peu ça tout à l'heure par rapport au corps, au fait que dans notre société aujourd'hui, notre corps est complètement dévalorisé. C'est aussi le cas dans certains courants féministes parce que le corps ça c'est relié à la nature, aux organes, etc. Et donc du coup, ça peut être une porte d'entrée vers l'essentialisme. Sauf que le corps, il est aussi plein de ressources et je pense qu'on ne s'appuie pas assez dessus. Je trouve vraiment que mon corps, c'est un super héros et je ne sais pas comment m'en servir. Je ne sais pas comment faire voilà, on ne m'a jamais expliqué, on ne m'a jamais donné les clés. Et du coup, c'est cette porte d'entrée-là que j'essaye d'insuffler dans mes cours. C'est de la réappropriation, ou plutôt de l'appropriation, parce qu'on ne l'a jamais su, j'ai l'impression. Des savoirs corporels, des sensations corporelles, de l'attention corporelle. Et alors, c'est très loin de Notre-Dame-des-Landes ou de ce genre de choses, mais ça permet déjà de se sentir et de pouvoir revenir à soi de temps en temps et d'avoir voilà, cette sensibilité-là qui peut nous relier à soi et aussi nous relier aux autres, de créer peut-être du lien par rapport à cette finesse-là. Pour moi, c'est un peu dans le même... type de réappropriation des savoirs que pour les savoirs gynécologiques ou ce genre de choses, c'est quelque chose de très global en fait. Après, le yoga n'est pas forcément perçu par tout le monde comme quelque chose de féministe, loin de là. Même déjà dans ses origines, c'est plutôt quelque chose qui était fait par les hommes et pour les hommes. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'appropriation culturelle, de modifier quelque chose complètement, alors qu'à la base, de toute façon, à partir du moment où on fait du yoga en Occident, c'est pas du tout... comme ça que ça a été pensé dès le départ. Et il y a aussi toute cette réflexion autour du monde du bien-être qui peut être Enfin, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est cette dépolitisation des questions sociétales et sociales qui prennent la porte d'entrée du bien-être, qui individualisent, en fait, en gros, la solution repose sur toi et toi seul, et c'est pas une question plus globale. Alors que, bah, c'est, pour moi, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, j'ai des fois un petit peu l'impression de marcher sur des œufs dans mes cours. Mais je pense que ce qui est important, c'est de remettre au centre le corps, les sensations corporelles, le fait de se sentir dans son corps, le fait de voir aussi que petit à petit, quand on a des clés, on arrive à sentir des choses qu'on ne sentait pas avant. C'est aussi une manière de mener les séances où, par exemple, je ne vais jamais poser mes mains sur les gens pour les ajuster sans leur poser la question. Et ça, bah, je trouve que c'est hyper important, en fait, parce que être touché alors qu'on n'a pas forcément envie d'être touché dans son corps, c'est pas agréable pour tout le monde. C'est aussi pas parler d'énergie féminine ou d'énergie masculine dans mes cours, ce qui est aussi parfois le cas dans les cours de yoga. Et donc du coup, ouais, je présenterai pas comme le yoga comme une pratique féministe ou écoféministe de manière générale. Je pense que ça dépend surtout de la personne qui mène le cours et de sa sensibilité à elle, qui va du coup insuffler quelque chose de particulier dans ses séances, quoi.
Par rapport à la réappropriation ou l'appropriation plutôt des savoirs gynécologiques, c'est intéressant parce que au planning familial, tu as proposé d'initier des ateliers d'autogynéco. Donc c'était aussi un moyen, voilà, qui allait peut-être pour toi dans cette démarche d'appropriation des corps.
Ouais, complètement. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est le prolongement l'un et le prolongement de l'autre. Les savoirs gynéco, c'est le corps aussi, quoi. On est sur de la matière, on est sur du sensible, et donc du coup c'est complètement en lien, oui, exactement.
Moi, j'avais une petite question pour Béné de Voix des Terres, parce qu'on a parlé justement d'un collectif écoféministe qui s'est créé il y a quelques années. De quoi c'est parti et qu'est-ce qui a fait que maintenant il y avait de nouveaux besoins de créer ce genre de collectif?
Alors, c'est un collectif qui s'est créé en 2019. Donc, dans la mythologie du collectif, c'est une première réunion au Bonjour Madame. Et il y a eu tellement, un tel engouement, en tout cas, ça a eu tellement de succès qu'on s'est dit qu'il y aurait d'autres cercles de parole. Et au départ, c'était des cercles de parole, quoi. Vraiment, la tradition un peu du féminisme des années 70, de pouvoir parler de questions qui nous animaient autour de l'écologie, d'un point de vue, effectivement, de personnes minorisés de genre.
Donc ouais. Ça s'est né un peu de personnes qui avaient besoin de discuter d'écoféminisme, du coup?
Alors le mot avait été posé effectivement pour la première réunion et ça a fait émerger plein de ressentis, de vécus et aussi de problèmes d'ajustement, hein, par rapport, on parlait là de la cis-hétéronormativité assez présente dans les luttes écolo et justement de ces problèmes d'ajustement avec les luttes plus globales des écolos, quoi. Donc on a essayé de créer un espace aussi où quand on se retrouve, juste pour prolonger peut-être un petit peu ce qui a été dit sur la réappropriation des corps, je pense que c'est pas seulement dans la réalisation de soi, cette réappropriation-là, même si bon, ben, par exemple moi aussi je fais beaucoup de yoga, voilà. Alors, sachant qu'il y a quand même une tradition de transmission par les femmes, une certaine branche du yoga tantrique, mais voilà, là pour le coup elle parle beaucoup de Shakti et d'essence féminine, voilà, apprendre ou à laisser, c'est comme on veut. Mais cette réappropriation, je pense qu'elle doit aussi être collective. Et par exemple, quand on se retrouve, on fait extrêmement attention à ce qu'on mange, en fait, et comment on le cuisine. Et pour voilà, on cuisine collectivement et ça a beaucoup d'importance. Un de nos trucs politiques qu'on aimerait faire, c'est un cahier de recettes militant à faire tourner, etc. Et aussi pour proposer des choses pendant les manifs qui soient pas juste des merguez, voilà. Donc c'est une façon aussi de prendre soin de nos corps, mais j'insiste sur cette dimension de prendre soin de nos corps collectivement, quoi.
C'est intéressant parce que du coup ça ouvre la porte à ce qu'on peut poser comme critique à ces mouvements écoféministes. Et je vous propose qu'on en discute après une deuxième pause musicale qui nous a été conseillée par Pauline qui est à la technique. Donc c'est le titre « Peau des rosaces ».
many a moment I long to dwell in the land I was born in and I know so well. But it's trouble enough to lead a life here, far away from the fighting and the friends I hold so dear. Were there soldiers in the mountains? Angels in the sky? Oh, that devil, he lives among us and I still don't know why. I can hear St. Patrick calling beyond the ocean roar. He's crying out for Ireland forevermore. Say a prayer, say a prayer, say a prayer from your heart for Ireland. Many sing songs of the brave boys, romanticizing dead men's dreams. Young men cut down in their prime, only for the orange and the green. Look at the old men clinging to their memories. They never wanna let them go. Oh no, I watch the children acting out all their stories. It makes my blood run cold. St. Patrick crying way beyond the ocean roar, and he's crying out for Ireland forevermore. Say a prayer.
Vous êtes toujours sur Radio Résistante et je suis toujours aussi avec Sophia et avec toutes nos invitées. Et nous parlons d'écoféminisme et nous avons parlé de la pratique et un peu de la reprise des savoirs et du corps par les écoféminismes. Mais il y a aussi des critiques qu'on peut souvent rencontrer en tant que personne proche des milieux écoféministes, qui vont être des critiques de, dans un sens négatif, de lier la femme à la nature dans une essence, que la femme serait plus proche de la nature, et que ça, ce serait la base des écoféminismes. Et il faut pouvoir répondre à ça, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens autour de nous, aux résistantes, qui peuvent nous dire ça. Donc on voulait savoir si vous aviez un peu, pouviez expliquer un peu ce lien, et pourquoi vous liez féminisme et écologie, autrement que à cause de la nature. Pas si vous vous sentez, Béné, moi je veux que tu répondes à cette question.
Oui, je veux bien essayer. C'est vrai qu'on prend souvent les écoféminismes depuis leur, enfin depuis les critiques en fait qu'on leur adresse. Donc c'est toujours un peu compliqué de devoir réexpliquer effectivement qu'on est ni essentialiste par essence ni spiritualiste par essence quoi, mais que c'est justement une réflexion politique quoi sur les liens entre le capitalisme, le patriarcat et toutes les formes de domination quoi. En fait, c'est un féminisme qui est depuis, on va dire qu'il a été pensé depuis un versant de théorie politique qui est vraiment pensé comme intersectionnel et révolutionnaire et effectivement qui va à l'encontre d'un certain féminisme libéral. Enfin, en tout cas, c'est ce que les premières féministes théoriciennes des années 80 ont pensé aussi.
À ce propos, juste avant de te laisser la parole, il y a un slogan du mouvement écoféministe qui est « On veut pas la part égale d'un gâteau pourri », donc qui montre effectivement que le but n'est pas de devenir PDG ou autre, mais de changer de modèle économique pour justement pour qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale et économique comme aujourd'hui.
Je suis d'accord avec Béné, j'irais même plus loin en fait. C'est assez simple à expliquer d'une certaine façon que justement l'écoféministe dénonce cette association des femmes à la nature en disant que c'est justement ça qui a permis l'exploitation et des femmes et de la nature. Et il y a des autrices par exemple comme Caroline Merchant qui ont montré à quel point l'émergence de cette vision de la nature comme une machine à exploiter, exploitable et l'ascension du capitalisme s'est fait en lien et pas seulement en lien mais c'est vraiment nourri de la façon dont la femme et les femmes et les minorités de genre en général étaient vues. Et après, peut-être, ce qui peut prêter à confusion, c'est qu'en effet, il y a un certain mouvement dans l'écoféminisme qui cherche justement, comme on parlait, à se réapproprier le corps cis des femmes, comme quelque chose qui a été déploré, qui a été écrasé, qui a été marginalisé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une forme d'essentialisation parfois, si, enfin, c'est comme ça a été très bien dit, c'est une porte ouverte à l'essentialisation, ça l'est pas en soi. Mais que, en fait, je trouve que justement, aujourd'hui, on a des nouvelles pratiques qui émergent. Encore une fois, je vais parler un peu des théories queer sur le sujet, mais par exemple, la pratique de la non-mixité, je trouve que ça permet justement de sortir un peu de ces choses-là. Donc, quand, dans les années 70, par exemple, beaucoup d'écoféministes disaient qu'il faut reclaim une identité de femme, aujourd'hui, beaucoup de femmes disent « l'important, c'est pas de reclaim d'être une femme, mais de se passer du regard masculin, de se passer de ces espaces-là pour reconstruire des identités à nous ». Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, personnellement, de rejoindre, en fait, justement, les critiques lesbiennes qui ont été faites à l'écoféministe, comme Monique Wittig, qui disait, justement, bah, les lesbiennes ne sont pas des femmes, et que, justement, remettre en question les femmes de par différentes autres théories qui viennent regrouper et recouper l'écoféminisme permet de sortir de cette essentialisation-là et justement, et permettre de se réapproprier un corps parfois qui est vécu comme le corps dans lequel on se sent bien et d'un autre côté, laisser la voie ouverte à beaucoup d'autres façons d'imaginer sa propre identité.
À ce propos, Cindy, tout à l'heure, tu parlais d'énergie féminine, et ça m'a fait penser à la spiritualité. Donc, comment tu gères, toi, cette ligne de crête?
Eh ben, en me concentrant sur le corps et pas sur autre chose dans mes séances de yoga, en fait. Je vais être très très peu sur l'aspect spirituel du yoga parce que moi-même, je suis pas encore au clair avec ça. Et donc, du coup, je me vois pas parler de quelque chose alors que je suis pas encore au clair avec, que c'est compliqué. Que moi, dans mon avancement personnel ou quoi que ce soit, la spiritualité, c'est vraiment une question très 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 récente. Donc, du coup, je vais pas du tout l'inclure dans mes séances et je vais porter beaucoup plus d'attention sur le fait de se recentrer sur l'instant présent. Très peu spirituel, en fait, mes cours de yoga sont absolument pas spirituels, je trouve. Ça peut peut-être en décevoir certaines et certains, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il faut aller chercher chez moi, quoi.
Moi, je voulais redonner la parole à Béné qui voulait rebondir sur ce qu'on était en train de dire.
Oui, parce qu'on parle effectivement beaucoup de réappropriation du corps. Et c'est vrai qu'enfin, comme l'a très bien dit Canel, c'est aussi, l'écoféminisme, c'est pas forcément se réapproprier un corps de femme cis, voilà, dans les normes hétéronormées. Une de nos particularités à Voix des Terres aussi, c'est de faire des newsletters très nourris. On prend beaucoup le temps de bien les écrire. Et l'un de nos membres, du coup, a écrit une de nos newsletters qu'on a mis aussi en post sur nos réseaux et qui a fait écho. C'est Ma transition est écoféministe. Donc, en tant que meuf trans, elle explique comment ça a été un chemin aussi pour se reconnecter à son corps. Et par ailleurs, j'avais juste une petite parenthèse à faire sur la question du yoga, étant pratiquante, ayant beaucoup creusé la question quand même, étant par ailleurs croyante. C'est vraiment compliqué d'entendre ça parce que, enfin, de dire que le yoga c'est pas une pratique spirituelle, c'est un truc vraiment de réappropriation blanche, quoi. Enfin, c'est un truc spirituel. Ça peut pas être autre chose. C'est ok, on peut dire, on peut enlever ça, mais à la base, ça n'existerait pas si c'était pas une pratique spirituelle, quoi.
J'ai pas dit que c'en était pas une. J'ai dit que dans ma manière de le faire et de le transmettre, comme j'étais pas au clair avec ça, je me voyais pas. Transmettre ça de cette manière-là, mais oui, bien sûr qu'à la base, c'est une pratique qui est spirituelle et qui est rien d'autre. Oui, c'est certainement. Ouais, c'est sûr.
Moi, je voulais poser une petite question à Héloïse par rapport à le fait que l'écoféminisme pourrait aussi faire peser la lutte écologique sur les femmes. Et comme tu nous témoignes de mouvements de femmes qui s'organisent pour une nouvelle forme d'écologie en Amérique du Sud, je voulais savoir comment c'était vécu là-bas, que ce soit porté par les femmes. Et aussi ce que ça amène comme violence contre ces femmes. Donc on peut penser qu'il y a énormément de meurtres contre les femmes qui défendent la nature en Amérique du Sud, par exemple. Est-ce que c'est des choses que tu as pu voir?
Effectivement, il y a eu une émergence de l'agroécologie portée par les femmes et politisée par les femmes dans une perspective féministe, en tout cas celle avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont membres de l'Articulation nationale d'agroécologie au Brésil, qui sont membres de des mouvements des sans terres ou d'autres mouvements de femmes paysannes, et qui où elles ont joué un rôle central, non seulement pour porter les questions écologiques et d'agroécologie au sein des communautés et d'aller les politiser, de les porter dans tous les espaces politiques, syndicalistes, réseaux d'agroécologie, tout en soulignant à la fois qu'il était nécessaire de passer à une transformation écologique qui passe par l'agroécologie, mais que cette transformation-là n'existerait pas sans féminisme. Et leur slogan, c'est « il n'y a pas d'agroécologie sans féminisme ». Et en ça, je trouve intéressant, c'est que ça montre que l'écologie, au final, n'est qu'une sous-branche de l'écoféminisme. C'est-à-dire que c'est une vision partielle, l'écologie. Et quand une approche écoféministe, là, on va vraiment penser l'ensemble du paradigme social et environnemental, la question des violences, la question des inégalités et des discriminations sociales et comment elles se déploient aussi dans leur dimension écologique et environnementale. Et en cela, je trouve que le féminisme qu'elle porte nous permet de vraiment penser une transformation globale.
Béné, tout à l'heure, tu parlais donc d'une personne dans votre collectif trans. Et du coup, ça mène à la question suivante qui est comment faire pour créer vraiment un espace inclusif au sein du mouvement écoféministe? Comment, en tout cas, vous l'avez fait au sein de votre collectif?
Oui, c'est vrai que ça s'est fait aussi avec les arrivées de nouveaux membres et c'est un collectif aussi qui se veut très organique dans son fonctionnement. Du coup, cette inclusivité, elle a jamais été pensée par un cadre extrêmement rigide en amont, etc. Enfin, ça s'est fait avec une forme d'ouverture à ces questions et à des réflexions qu'on avait tous déjà en cours. On est plusieurs personnes à être non-binaires et y réfléchir collectivement nous a permis de construire notre non-binarité, pour le coup, au sein de l'écoféminisme qu'on pensait ensemble, quoi. Ça a été un peu le fruit d'une réflexion collective qui s'est faite de manière assez organique parce que justement, on défendait un écoféminisme politique et qu'on avait toujours fait attention à pas du tout avoir un discours essentialiste en prenant plein de précautions aussi dans la façon dont on se présentait et qu'on présentait ça.
C'est une parfaite transition parce que on va faire une interview du coup aussi avec Annel, Béné et Lu sur l'écologie queer. Et du coup, je voulais vous poser une question pour un peu clore tout ça et faire un lien, un teaser, voilà, sur justement les liens entre écoféminisme et écologie queer et peut-être les questions d'invisibilisation dans l'écologie, l'écoféminisme de certains vécus et la réappropriation actuelle. Donc ça, c'est une discussion qu'on a eue avec lui hier. Je ne sais pas si tu veux un peu l'expliquer ou si Canel veut le faire.
Oui, alors hier, on a parlé de la façon dont on se politisait aussi dans des espaces queer et comment est-ce qu'on on voulait rejoindre nos convictions écologistes avec une mobilisation queer. Et donc, à l'épreuve des tensions, il y a un certain nombre de questions qu'on va aborder demain sur comment est-ce que avoir des mobilisations qui sont pas forcément, enfin qui sont pas dans les mêmes espaces, notamment notre mobilisation queer, ça s'est fait dans un squat qui s'appelle la Baudrière, un squat transpédéguine qui essaie de penser l'écologie en ville et voilà, donc tout ça a créé un certain nombre de tensions aussi avec ce que ça nous évoque l'écologie de façon simple, c'est-à-dire une sorte de reconnexion à la nature. Donc comment est-ce qu'on pense l'écologie au cœur d'espaces urbains, dans des squats, et comment est-ce qu'on peut politiser aussi ces questions-là depuis la ville, depuis des expériences queer, voilà, en dehors des représentations un peu simples.
Peut-être avant de conclure, on peut faire un petit tour de table sur quelle penseuse ou penseur féministe on recommande à nos auditeurs et auditrices. Moi, comme je suis une amoureuse du son et de la radio et du podcast, j'ai envie de vous recommander deux épisodes d'un podcast à soi sur les écoféminismes et plusieurs émissions de radio aussi. Il y a Françoise Dobon aussi qui a écrit notamment des livres qui sont aux éditions Cambourakis, dont on a parlé aussi tout à l'heure avec Juliette Rousseau.
Moi, je trouve qu'on a des choses, des écrits anciens et extrêmement intéressants et précurseurs sur l'articulation écologie et féminisme en Amérique latine, enfin qui viennent de l'Amérique latine, mais qui n'ont pas une vision que parcelle, qui peuvent très bien inspirer. Et on peut penser aux écrits de Lelia Gonzalez, notamment pour penser l'imbrication du colonialisme et du sexisme. On peut voir les écrits des féministes communautaires comme Lorena Cabnal. Donc vraiment des choses qui datent des années 80 et qui déjà nous donnaient à réfléchir sur l'imbrication des oppressions et la dimension écologique au cœur de tout ça.
Moi, je suis très podcast aussi, donc je recommande une série documentaire réalisée par Clémence Alzar sur Sortir les lesbiennes du placard sur France Culture. Il y a un épisode, je crois que c'est le numéro 2, qui est dédié, je crois que ça s'appelle Une terre à soi, au mouvement lesbien et féministe qui est de reprise des terres des années 80, si je me trompe pas, et qui justement désinvisibilise la place des lesbiennes qui a été prise pendant ces années-là, dans les années 80. Très très bon épisode, voilà.
Cindy,
moi, un des premiers livres sur l'écoféminisme que j'ai lu, c'était le recueil de textes dont parlait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était toi, Héloïse, ou c'était Juliette, de Emily H, qui s'appelle Reclaim, qui est, je ne sais plus quelle édition.
Cambourakis. Je crois que c'est aussi Cambourakis.
Oui, ouais. Peut-être.
Eh bien, merci à tous pour ce plateau. Je ne sais pas si, Béné, tu voulais ajouter des récos, mais du coup, on sait aussi que vous avez une newsletter Les Voix des Terres, et qu'on peut s'inscrire à travers votre site internet, je suppose. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. C'était riche, c'était très chouette de discuter avec vous. Et on va laisser la place pour plein d'autres interviews sur Radio Résistante, sur les ondes et sur radiolarzac.org. On est aussi repris par quelques radios par-ci, par-là en France. Et donc, bonne suite à vous tous pour les Résistantes. Et n'oubliez pas de nous écouter sur les ondes si vous n'êtes pas là.